Je laisse Frédéric aborder l'endoscopie de sa mère.
Bien, vous avez vu, perçu déjà que pour certains, pour Israël, il fallait utiliser ce qu'on appelle l'endoscopie de sommeil. Pourquoi? Parce que actuellement, la pièce se joue quand même dans la pièce du sommeil au niveau du carrefour aérien, aérodigestif, au niveau des VNS, et qu'actuellement, surtout, on a dispo d'examens qu'on fait essentiellement pendant l'éveil. C'est-à-dire qu'en gros, quand on fait la fibroscopie, on peut allonger le malade, mais il n'en pas. Même chose quand on fait les télécrânes, hein, les différentes imageries, sans parler d'études qui sont un peu plus complexes, tous ces examens sont réalisés en éveil. Le principe d'endoscopie de sommeil, c'est d'essayer de s'approcher du sommeil le plus physiopathologique possible, en induisant ce sommeil pour essayer d'aller voir quel est l'obstacle exact qui est à l'occasion, qui va occasionner le collapsus. Alors, ça n'est pas une nouvelle technique, ça existe depuis très longtemps, puisque les études de Croft et Pringle ont été publiées, vous voyez, en 90, donc il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce qui fait que ça a été remis au bout du jour et très développé actuellement? Il y a énormément de publications sur l'endoscopie sous sommeil induit. Et bien, grâce à deux petits appareils, le premier qui est qu'on peut obtenir une concentration maintenant bien mesurable de produits qui va induire le sommeil, que ce soit du propofol, l'isalam ou autre, et qu'on fait un succès d'année de EEG en faisant une analyse bispectrale, c'est-à-dire qu'on pose une sorte d'électroencéphalogramme frontal, c'est très modéré, c'est très modeste, mais néanmoins, on peut avoir une idée, une approche de l'approfondissement progressif du sommeil. Alors, je vous montre simplement rapidement ce que ça donne pour voir le même malade sur une fibroscopie éveillée. Vous voyez, chez ce patient, le patient n'a pas l'impression qu'il a un doigt du palais, au contraire, il est court, petit, il n'y a pas d'obstacle qui apparaissent majeurs. Quand on va en arrière, vous allez voir, ça s'ouvre très bien. On voit bien, ça s'ouvre bien, c'est large. On va passer à la vidéo juste après. Vous voyez le même patient en endoscopie de sommeil, on a la fosse nasale. Regardez bien, vous voyez que là, on va se rapprocher progressivement. Vous voyez, ça commence à se collapser complètement. Et derrière le voile du palais, ce qu'on voyait tout à l'heure, quand c'était bien ouvert, vous voyez qu'on a en bas, en dessous, on regarde bien, on voit l'épiglotte ici, il n'y a pas de collapsus de base de langue. Et vous allez voir que c'est en fait ici, au niveau du voile du palais, dans le sens antéro-postérieur, qu'on va obtenir un ronfle, on voit le battement de la luette, et puis on va voir tout doucement s'approcher à la fin, au fur et à mesure que la concentration de produits augmente, vous allez voir ensuite ce rétrécissement progressif, et ça va arriver à se fermer complètement, et donc l'obstacle est principalement situé ici, alors que chez une patient avérée, on ne suspectait absolument pas. Alors, en pratique, comment ça se passe? Bon, c'est un examen qui est simple, mais qui demande quand même un petit peu une courte expérience. Ça se fait avec un fibroscope allongé au bloc opératoire. Certains ne font pas au bloc opératoire. Les Allemands, en particulier, qui la pratiquent énormément, le font en consultation, simplement parce qu'ils utilisent une drogue anesthésique différente, qui est midazolam. Et on va essayer de s'approcher le plus avec cette drogue du sommeil normal. Et on fait ça, bien entendu, on va faire des manœuvres. On va projeter la langue un petit peu pour voir, par exemple, l'effet, ou projeter la mandibule, l'effet prévisible d'une orthèse avancée mandibulaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça passe au bloc. Ce qui est plus difficile, c'est le silence, parce que le silence au bloc opératoire, bien sûr que c'est difficile, parce que le patient arrive, il doit s'éveiller en état de la lumière. En fait, c'est toute une éducation de toute l'équipe. On n'ouvre pas la porte sans arrêt, etc. On rentre, on reste. Ça demande donc une bonne collaboration avec l'exercice. Vous voyez donc ici, donc on a le bis ici, ça c'est avec un fibroscope, on est en face. On regarde sur un moniteur et on va enregistrer les datas, à la fois les datas sonores et les datas en termes d'imagerie. On peut utiliser donc la capnie, à la mesure de la capnie, tout ce qu'on utilise en plus, et l'oxygène, parce que le patient désature en dessous de 80%. Donc on essaie de le mettre dans une position sur un chariot pas trop raide, avec s'il dort avec un oreiller, ce qui est difficile d'arriver à tourner sur le côté quand on va voir l'effet du décubitus latéral. Donc là, ici, je passe rapidement sur les trucs. Ça peut être un gros, soit du midazolam, soit du propofol. Le propofol impose, en tout cas, au niveau réglementaire en France, de le faire avec un anesthésiste. Et on monitore les fonctions cardio-respiratoires avec essentiellement donc l'oxymétrie, la captographie et le CG. Et on utilise surtout le BIS. Alors, BIS ou d'autres neuromonitoring. Vous verrez que certainement, une des voies de développement sera de s'approcher plus, d'avoir une évaluation du sommeil qui soit meilleure. Je vous poserai cette dernière vidéo pour montrer un exemple. Là, on est, vous voyez les amygdales qui sont ici, simplement. Vous voyez ici, donc, il y a une fois un collapsus qui va permettre de découvrir dans le sommeil du sommeil. Donc, il y a un collapsus au niveau des amygdales transversales. Et quand on descend en bas, en dessous, on voit bien qu'est-ce qui se passe. C'est que la base de langue est également appliquée et qu'elle va pousser progressivement. Vous voyez, l'épiglotte est collabée, va se collaber lorsqu'il y a une pression négative qui se met ici. Et on se doute bien que là, c'est pas uniquement un problème d'amygdale, mais il y a certainement sous-jacent également un problème de masse de l'or. Alors on classe après, hein, on a une classification très, très classique, on va mesurer, hein, il y a tout un compte-rendu qui se met en place, hein, au niveau des différents étages, le voile du palais, les amygdales, la base de l'angle, puis le larynx, ça peut être antéro-postérieur, latéral ou concentrique, et ça peut être partiel ou complet. Bon, après il y a tout un compte-rendu qui est standardisé, tout ça. Alors, trois ou quatre questions. La première, le sommeil est-il équivalent au sommeil naturel lorsqu'on induit le sommeil? Eh bien non, pas complètement, il y a plusieurs papiers qui l'ont bien montré, qu'en fait, on va certainement reproduire les événements respiratoires, mais on ne produit pas un sommeil qui est pathologique parce qu'on chante les stades de sommeil superficiel, on va vite, hein, sur le sommeil profond, ce qui fait qu'il faut quand même se méfier lorsqu'on fait, on augmente les concentrations, on passe très très vite, hein, en stade de sommeil profond, et on va chanter les événements qui se passent souvent durant le sommeil superficiel. Quelle localisation du site? C'est là où on a compris pourquoi les chirurgiens avaient eu beaucoup d'échecs, hein, tout simplement parce que quand on regarde ce qui se passe, vous voyez, sur des grandes séries de patients, hein, une équipe à Anvers qui est vraiment référente en Europe, et qu'est-ce que vous voyez? Que, ben, en gros, c'est l'intrication des sites obstructifs. Et par exemple, lorsqu'on voit sur le rein, sur le palais, ça représente isolé que 12 à 15%, et ce qui explique que la chirurgie était vouée à l'échec lorsqu'on faisait systématiquement, hein, pour tous les patients, des chirurgies du voile du palais. L'endoscopie sommeil induit a-t-elle un impact sur l'efficacité thérapeutique? Ça, c'est beaucoup de papiers qui sont sortis, même si ce n'est pas la perfection, c'est une approche qui est meilleure que sans sélection sur une endoscopie de sommeil. Vous voyez sur ce papier de Nico de Ris à Anvers, hein, globalement, sur une série, hein, qui était de plus de 130 patients, il observait qu'il corrigeait l'index d'AP, hein, en dessous de 15 dans 70% des patients et 80% des répondeurs. Je rappelle une méta-analyse qui a été faite il y a longtemps par Roncher sur la chirurgie du voile du palais. Alors, on est sur la chirurgie du voile du palais où il y avait à peine 40% de succès, toute intensité et sans avoir des sommeils confondus. Alors, il y a quand même des quelques limites, hein, et qui vont certainement évoluer. C'est qu'on fait ça, ça dure une demi-heure, ça ne reflète pas l'ensemble de la vie, ça ne reflète pas un cycle de sommeil complet. Que les modalités d'induction ne sont pas encore et sont complètement standardisées et variables d'un patient à l'autre. Certains, dès qu'on augmente un peu la concentration de propofol, vont se mettre en apnée. D'autres, au contraire, il faudra augmenter, hein, beaucoup plus, un niveau beaucoup plus élevé pour observer l'apnée. Et que l'évaluation du sommeil est actuellement sommaire, même si on travaille dessus. L'idée étant de faire l'enregistrement de sommeil pour corréler l'enregistrement diagnostic avec l'enregistrement qui est fait en endoscopie de sommeil. Alors, quelles sont les indications pour finir en 2016? Alors, jusqu'à maintenant, on réservait, parce que c'est assez compliqué, ça peut être aussi un peu coûteux, hein, au cas d'échec d'une chirurgie initiale, quand le patient vient pour un autre avis. Lorsqu'il n'y a pas de site obstructif évident, on l'a vu, hein, dans les patients, mais vous avez vu la différence de ces deux vidéos, hein, comme quoi on a souvent de grosses surprises dans son endoscopie de sommeil. Et enfin, quand il y a plusieurs traitements qui se discutent, hein, un patient jeune qui envisage éventuellement une alternative chirurgicale. En fait, récemment dans le futur, ce sera vraiment systématique en cas d'indication chirurgicale parce que c'est quelque chose qui amène quand même des résultats qui sont meilleurs et par devoir examiner le patient, je pense que c'est un examen qui va devenir nécessaire. Voilà, donc c'est une pratique, hein, qui est plus rationnelle, qui est beaucoup plus proche de la réalité. C'est pour ça qu'elle se développe énormément dans tous les pays européens et également aux États-Unis. C'est un examen qui donne quasiment aucune iatrogénie, hein, il n'y a aucune cystite, que c'est une contrainte d'être hospitalisé en ambulatoire. C'est reproductible, hein, c'était bien démontré, hein, par différentes équipes, hein, différents opérateurs, on reproduit les mêmes, hein, exactement les mêmes sites obstructifs. Mais le problème majeur actuellement, c'est la mise en place, et surtout qu'il n'y a pas de cotation CCRM, même s'il y a une demande officielle de ces savants pour une cotation officielle, parce que c'est beaucoup plus time consuming que les endoscopies de cancer, par exemple, qui vont assez. Voilà, merci.
Merci beaucoup.